France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Cette rentrée littéraire de janvier nous emmène sous le soleil des îles de la baie de Naples. Pourtant, ce n'est pas le bleu qui domine le dernier roman de Pascal Quignard. Bien sûr, la mer, comme toujours, est présente, elle lave et accueille les passions. Mais ce livre se décline dans des tonalités de jaune et de brun. L'épaisseur de la chaleur, les citrons gorgés de jus, la terre qui recouvre les morts et découvre les trésors, l'or, bien sûr, qui ressurgit des coffres, et cette couleur angoissante du ciel poussiéreux après les séismes. Les premiers rayons de l'aube que chérit mon invité sont ici les témoins des corps qui tombent, qui s'aiment et qui acceptent de prendre le large. Alors je ne sais pas si Louise et Ludwig, les deux protagonistes de Trésors cachés, sont des êtres balbutiants, mais le romancier, lui, poursuit par l'écriture son enquête sur le langage. Bonjour Pascal Quignard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en ce début d'année. Votre tout nouveau livre, Trésors cachés, paraît aujourd'hui. Alors vous en avez vécu beaucoup dans votre carrière, des premiers jours du reste de la vie d'un livre. Mais est-ce que c'est encore pour vous un moment particulier, cette première rencontre avec vos lecteurs?
Ah oui, totalement. D'une part, bon, le livre arrive en librairie, donc c'est l'objet lui-même qui est dispersé, qui est éparpillé, ça c'est très émouvant. Mais c'est surtout le fait que je ne sais absolument pas, puisque c'est la première fois que j'en parle, ce que je vais en dire, ni ce que vous allez en dire vous, ni ce que je vais en dire moi. Et j'espère que je saurai en parler, mais je ne le sais pas vraiment.
Donc on découvre ensemble ce livre finalement, là.
Exactement.
En direct sur France Culture. Ouais. Alors dans ce roman, tout commence comme un conte. Une femme perd son chat, elle est en deuil, elle l'enterre avec affection dans son jardin. Et en retournant la terre, elle découvre un trésor. La mort et l'éclat de l'or ou du soleil seront alors liés jusqu'à la fin du récit. Pourquoi avoir choisi, Pascal Quignard, de faire résonner ensemble ces tropismes qui semblent opposés, l'or et la mort?
Ah oui. Vous voyez, je ne sais pas, tout de suite y répondre. Parce que c'est une chasse au trésor. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment où est l'or, où est la lumière, comme vous le disiez, avec cette lumière d'été qui baigne, et cette lumière aussi de séisme qui maintenant, comment dire, rejoint la baie de Naples. Et je pense qu'il y a quelque chose, peut-être aussi dans les couleurs que vous indiquez, qui appartiennent à l'automne, c'est-à-dire quelque chose comme aux grandes marées d'équinoxe que l'on éprouve lorsqu'on vieillit et qui fait que le monde se découvre beaucoup plus immense, beaucoup plus beau, mais beaucoup plus compliqué aussi que lorsqu'on a 2-3 ans.
La mort a toujours été présente dans vos textes et dans vos réflexions. Est-ce que vous l'écrivez différemment plus le temps passe?
Oui. Oui. Oui, je la fuis d'autant plus peut-être aussi. Il me serait difficile, Dieu sait que les adolescents, ou ceux qui ont 20, les jeunes femmes ou les jeunes hommes de 20, 30 ans, qui parfois même désirent mourir, tellement la panique les prend, l'angoisse de vivre les prend, le malheur aussi. Et c'est quelque chose qui s'éloigne lorsqu'on s'approche d'elle, peut-être. Et c'est plutôt, comment dire, la profusion de l'expérience et la masse des souvenirs et des comparaisons des douleurs qui fait qu'elle ne diminue pas. Mais on les sait plus nombreuses et on sait qu'on peut s'en sauver. Il y a une sorte de rédemption qui vient à force d'avoir domestiquer un peu nos propres paniques.
Il n'y a pas de panique dans ce roman-là?
Non, aucune.
La mort est assez douce?
C'est un trou, comme les autres, comme l'extase est un trou, comme le bonheur est un trou. Et il y a quelque chose d'un peu troué dans notre expérience qu'il faut aimer pour précisément cette liberté qu'elle offre à ce qu'on peut vivre. C'est une sorte de possible.
C'est la découverte d'une cassette avec des louis d'or anciens. Alors on remarquera ici au passage l'homonymie. Celle qui trouve le trésor s'appelle Louise. Le trésor ici n'est pas au bout du monde, mais au fond de son jardin. Elle ne l'a pas cherché, elle l'a simplement dévoilé. N'empêche que le mot trésor et l'apparition de l'or réveillent en nous, lecteurs, tout un imaginaire. Alors je voulais que nous écoutions l'un des trésors contemporains qui a fait tourner bien des têtes et qui vient juste d'être découvert. C'est Michel Becker qui en parle et c'est sur la chouette d'or. Nous sommes en 1993.
C'est un vieux vice d'enfance, ça. J'ai toujours, d'une manière sentimentale. J'ai toujours fantasmé d'une façon sentimentale sur les trésors. C'est le mythe. Bon, je suis artiste peintre, donc a priori, j'ai un imaginaire, une imagination qui fonctionne probablement plus ou d'une façon moins contrainte que chez beaucoup. Et le trésor, pour moi, est un élément, un vecteur très, très porteur au niveau imaginaire. Ce qui est très étonnant, c'est qu'avec le lancement de cette opération, j'apprends, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, mais j'apprends qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont des passionnés de trésors, qui continuent en douce la nuit à aller dans telle ou telle chapelle, je ne dirai pas où, casser un petit coin de fresque, se faire engueuler par le curé qui a été réveillé en sursaut. Mais c'est vrai, c'est pas des racontars. Il y a effectivement des gens qui continuent à consacrer beaucoup de temps à la chasse au trésor.
Est-ce que vous avez une fascination, vous, Pascal Quignard, une fascination d'enfant pour les trésors ?
Pour le roman de Stevenson, La chasse au trésor, bien sûr, mais pour les... La chose précieuse, quelque chose que l'on voudrait garder, la collection. La collection, il y a quelque chose qui... Et vous savez, la mémoire, c'est ça. La mémoire, c'est une façon, comment dire, d'emmagasiner des trésors et de les comparer les uns aux autres. Et la chasse au trésor dans le livre, ce qui m'a ému, plu en l'écrivant, c'est le fait que c'est pas forcément le trésor, c'est pas forcément l'or, en effet, le trésor. C'est quel est, comment dire, dans nos vies, les moments les plus beaux. Est-ce que c'est le bord d'une rivière? Est-ce que c'est... un animal, un chat. Vous parlez de chouette. J'ai écrit un livre sur une chouette que j'aimais, une chouette effraie, et que j'avais vu naître dans sa petite coquille et qui, et malheureusement, a été dépecée et dévorée par un corbeau. Charmant lui aussi, c'est pas ça le mais, et j'avais beaucoup d'émotions. C'était aussi un trésor, elle. Il y a la nature est un trésor aussi. Vous voyez, c'est important peut-être de le chercher, et c'est comme ça que il se multiplie, et je ne pourrais pas vous dire quel est vraiment le trésor au bout de ma vie.
Mais là, Louise, votre personnage principal, elle ne le cherche pas, ce trésor.
Elle l'obtient dans la mort de celui qu'elle aimait le plus. C'est comme s'il y avait un don, et sa vie, là, prend un virage complet, parce que ça lui permet de voyager davantage. Ce peu d'argent qu'elle a en plus lui permet d'amplifier un peu sa vie, de choisir des hôtels plus agréables et de découvrir des restaurants meilleurs. Et elle en profite tout à fait. Et sa vie bascule, ne cesse, en un an, il lui arrive mille, cette possibilité de multiplier les virages dans sa vie, mais comme autant peut-être d'extase un peu. C'est ça qui est enclenché par cette mort qui est un don d'un trésor aussi.
Elle se part aussi de ce trésor, parce que dans la cassette, il n'y a pas que des louis d'or, il y a aussi des bijoux qu'elle porte.
Il ne faut pas croire que c'est une énorme cassette où il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent et de choses. Mais en effet, il y a trois anneaux, trois bagues, et qu'elle met et qu'elle pose sur le bord du piano lorsqu'elle joue un peu pour elle-même ou pour l'homme qu'elle aime, et puis qu'elle remet sur ses doigts et qu'en vieillissant, ses doigts s'amincissant, elle perd aussi quand elle jardine.
Alors vous avez dit, Pascal Quignard, à plusieurs reprises, quand on aime, on se tait. Pour vous, le silence et l'amour font bon ménage, comme si les mots étaient incapables de se poser correctement pour dire l'amour. Or, dans ce dernier livre, Trésor caché, vous racontez une histoire d'amour. Alors, quelle différence faites-vous entre l'impossibilité du langage à dire l'amour et l'auteur, vous, qui écrivez une histoire d'amour ?
Ah, quelle est belle votre question ! Quelle est belle ! Dans l'amour, dans la relation, comment dire, entre ceux qui s'aiment. Si vous faites intervenir le langage, vous prenez des mots qui différencient les choses, et en plus, comment dire, le dialogue est une altercation. C'est l'un parle à l'autre, il prend position contre l'autre. Bon, là, vous commencez à déchaîner une quantité d'absurdité, alors que vous aimez l'autre. L'autre devient vraiment l'étranger, il ne sait plus, les mots deviennent pleins de malentendus. Vous commencez quelque chose qui va être la rupture même. Je pense que dans l'amour, il vaut mieux se taire et sentir un peu ce que ressent l'autre et se garder précisément d'engager un peu d'affrontement. Lorsqu'on écrit, c'est comme à la suite d'un rêve, on essaie de raconter, de transcrire, d'améliorer aussi. C'est difficile de raconter des rêves. Lorsqu'on écrit un livre, au contraire, là, on est face à personne. On ne cherche pas l'affrontement avec quoi que ce soit. Il s'agit de faire revenir comme une vague quelque chose de beau, de plus. Là, le langage, vous voyez, il est dénué de violence, il est dénué de division. Il cherche à Il cherche son flux, son flot, sa mélodie, c'est tout.
Vous parliez de revenir, il y a une autre phrase aussi qui m'a marquée dans votre roman. Nous ne nous aimons plus, mais nous nous souvenons de l'amour. Le couple d'ailleurs tombe d'accord sur ce constat. Comme si pour vous, c'est un peu ce que vous venez de dire finalement. Écrire les souvenirs, c'est une façon d'écrire l'amour sans altercation.
Oui, mais là, dans la scène que vous dites, c'est triste. En fait, ils ne s'aiment plus. Et ils se souviennent qu'ils se sont aimés, ils restent ensemble parce qu'ils se souviennent qu'ils se sont aimés. Je ne suis pas sûr du tout que ce soit ça, l'amour du tout. Non, ça n'est pas...
Mais c'est comme ça que vous l'écrivez. Vous écrivez le souvenir de l'amour.
Dans le cas, oui. Mais vous savez, les livres, d'ailleurs comme les rêves lorsqu'on les raconte, on est toujours après coup. Donc il y a un effet de retard, il y a un effet, comment dire, d'imparfait, il y a un effet de passé qui rend nostalgique ce qui a été vécu. Mais cette nostalgie, c'est aussi pour que ça revienne avec un peu plus de lumière, un peu plus de sensation, de sensibilité.
Est-ce que c'est par méfiance du langage que les corps, et encore plus les corps nus, s'exposent beaucoup dans ce texte ?
Ah bon, ils s'exposent beaucoup ?
J'ai trouvé, oui.
Ah, oui.
Ils sont souvent nus le matin pour prendre le premier rayon du soleil. Ouais.
Je vous conseille de le faire quand il fait très chaud. Il faut dire que nous connaissons, ce livre a été écrit dans les années qui précèdent, nous commençons à connaître des étés extraordinairement chauds où je ne vois pas comment on peut. D'une part, il faut sortir très tôt, si on peut, mettre son réveil, je sais pas, vers 4h du matin, profiter de la fraîche, profiter du début du soleil, de l'humidité encore, de l'herbe du jardin ou de la piscine, peu importe des lieux, peu importe où. Il ne faut pas du tout hésiter de profiter. Et puis, dans ce cas-là, lorsque le soleil est au zénith, vous avez commencé par parler de ça, sur le soleil, l'ensoleillement excessif. Je pense que c'est parce que, ça c'est les conditions, comment dire, que l'écologie, malheureusement, c'est pas l'écologie qui est responsable, au contraire, mais que la nature, maintenant, est devenue plus dure et que ce roman, en effet, aime peut-être se déshabiller un peu plus pour accueillir plus le soleil et plonger dans la mer plus souvent que d'autres.
Mais on a aussi parfois l'impression que les corps parlent mieux que les mots, vous le disiez. Parfois, quand on s'aime, le dialogue est compliqué. Là, finalement, être nu l'un à côté de l'autre, ça permet de s'aimer mieux.
Complètement. Mais là, vous savez, c'est notre ça, c'est un trésor aussi. Le caractère animal qui reste de nous dans notre vie, c'est merveilleux de voir pour les oiseaux, pour les chats, pour les chiens, la façon dont ils vivent. Ils communiquent uniquement par gestes. Ils se mettent devant la porte, ils veulent dire qu'ils veulent sortir. Ils se mettent devant le buffet, ils veulent dire qu'ils veulent manger. Ils s'approchent de vous, et ça veut dire qu'ils veulent qu'on caresse leur tête ou qu'on... Vous voyez, il y a tout un langage silencieux, une communication silencieuse. Même, si vous voulez, entre la nature et nous, il y a une fraternité silencieuse et qui est un des plus grands plaisirs des jours.
Alors, puisque vous évoquez les animaux, les chats sont des présences farouches et affectueuses dans ce roman. Ils sont toujours là, même si souvent ils se cachent. Vous les décrivez dans ce livre avec beaucoup de précision. On a l'impression que vous les connaissez intimement, comme si vous aviez été peut-être chat dans une autre vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent une connexion très particulière avec ces animaux-là. Est-ce le cas, Pascal Guidon ?
Oui, c'est le cas. C'est le cas, mais vous voyez, connexion, c'est plus que ça encore. Ils m'ont appris des choses. Ils m'ont appris d'ailleurs à communiquer aussi avec les humains. Il y a, comment dire, une réserve, vous dites farouche, c'est vrai, un désir de liberté, qui est une très belle leçon morale. Ce sont des individualistes, mais y a-t-il plus individualiste qu'un chat? Je crois pas. Et ça, je trouve que politiquement, c'est une merveille. Ils sont, comment dire, gourmands. J'avais une amie, Dominique Horry, qui a écrit d'ailleurs un très beau livre, Histoire d'eau, qui disait « La caresse les perd ». Il y a un désir de caresse chez les chats et pof, ils montent sur votre torse et ils demandent à être massés du haut du crâne jusqu'au bout de la queue. Le don qu'ils vous font est un don de vie qui doit être aussi simple dans les dons que nous faisons à ceux que nous aimons.
Il m'a semblé lire en filigrane un récit proche d'une nouvelle genèse, un paradis perdu puis retrouvé bien sûr, mais aussi une attention aiguë au nom. Alors Frédéric Boyer, qui a beaucoup travaillé sur ces textes bibliques, décryptait cette trame narrative de la Genèse au micro de Géraldine Mosna-Savoie dans Le souffle de la pensée. C'était il y a quelques semaines.
Dieu dit, je vais faire quelqu'un qui se porte au secours de cette humanité seule. Et il commence par quoi, ce bricoleur un peu Il commence par créer les animaux. C'est très beau, ça veut dire que la première présence qui répond, ou qui devrait répondre à notre solitude humaine, c'est l'animal. Ça dit quelque chose de très profond aujourd'hui. Je pense que peut-être qu'on n'a pas compris ça, on n'a pas interprété ça dans les siècles précédents, mais aujourd'hui, on entend quelque chose de très fort dans ce texte. C'est-à-dire que la première réponse à notre solitude, c'est l'animal. Et qu'il y aura toujours cette cicatrice-là, que l'animal est peut-être notre premier frère. Voilà. Ensuite, il y a quelque chose de très beau, c'est l'art du récit biblique qui est un art de condensation, vraiment. Parce qu'en même temps, là, vous avez la création de la parole. L'humanité, pour l'instant, elle n'a pas parlé, elle n'a pas prononcé un mot. Là, dans... Et tout d'un coup, donc, la divinité crée ces petits personnages animaux et les fait défiler, ce qui est bon, c'est assez beau comme image, les fait défiler devant ce pauvre gars tout seul. Et que fait-il, là? Ben, il donne des noms. Ce qui est pas mal, parce que quand vous nommez quelqu'un, vous le reconnaissez. Donc, ça veut dire, c'est-à-dire que ça ne suffit pas. Mais au début, l'humanité fait ce geste de reconnaissance, quand même, de Daniel, puisqu'il le nomme. Même le verbe hébreu, c'est à la fois nommer et appeler. Donc, il les appelle par un nom. Voilà, ça serait ça la bonne traduction. Donc, rhinocéros, je sais pas quoi, guépard, léopard. Mmh. Donc, c'est aussi l'invention de la parole. La parole arrive pour reconnaître l'autre.
Alors, il y a plusieurs fils à tirer depuis votre roman vers cette genèse, m'a-t-il semblé en tout cas. D'abord, cette fluidité des noms propres, ceux des chats comme ceux des hommes, tous en ont plusieurs, comme si le nom n'était plus cette identité stable, mais une matière mouvante qui fluctue selon les saisons et les pays. On vient de l'entendre dans les explications de Frédéric Boyer. Nommer, c'est faire exister. Alors, nommer plusieurs fois, qu'est-ce que ça signifie, Pascal Quignard?
Mais poursuivre ce que dit Frédéric Boyer, Dieu renomme ensuite. Il y a deux noms à chaque fois. Et moi, tous les romans que j'écris, tous les personnages ont toujours eu deux noms. Il y a une hésitation sur ce qu'on est. Il y a une, je pense chez moi, une répulsion à être caractérisé par un seul nom. Il y a un désir de liberté par rapport au nom que je porte. Il y a une façon de s'évader comme ça et de laisser dans l'entre-deux. Non, le langage, en effet, indique, symbolise, mais il ne fait que ça. Il ne désigne pas vraiment. Ça n'est pas un nom propre. Le nom propre, c'est le corps. Et le langage doit rester, comment dire, comme inférieur aux valeurs corporelles. Et les... Je ne sais pas d'ailleurs... Il y a des animaux qui répondent à leur nom, il y a des animaux qui n'y répondent pas. Je ne sais pas quels sont les plus sages et les plus intelligents des deux.
Mais cette fluidité, on la retrouve aussi dans l'emploi des pronoms. Votre texte passe volontiers dans une même page du je au elle, d'un narrateur extérieur au regard d'un autre personnage. Qu'est-ce que vous cherchez à provoquer à la lecture avec ces changements de cadre ?
Je sais pas. En tout cas, il y a un grand maître pour moi qui est un écrivain japonais qui est Akutagawa, qui est celui qui sans doute a d'ailleurs modifié le plus le mode narratif, d'ailleurs à l'aide aussi du cinéma. Le fait que la même chose de ne pas être assigné à un nom, ne pas être assigné à une personne, pouvoir être plusieurs aussi au travers de je, tu, il, est une façon de reprendre la main. Il y a des expériences qui ne peuvent pas dire « il », il y a des expériences qui ne peuvent se dire qu'en première personne. J'ai du mal à répondre à votre question, parce qu'elle est très 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 bonne, hein, c'est pas... Mais parce que c'est intuitif.
Donc ce n'est pas une construction.
Non,
vous ne le pensez pas avant d'écrire.
Il y a des choses à tonalité « il », il y a des choses à tonalité « je ». Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Je vous jure que c'est vrai.
Et donc vous vous laissez porter. L'écriture vous devance ?
Ah, non, je nettoie. C'est beaucoup plus continu au début, mais après je nettoie et je fais en effet c'est ce qui va convenir le mieux à la scène. Et que la scène, comme au cinéma, soit bien séparée et qu'elles soient toutes séparées les unes des autres pour pouvoir surgir comme autant d'émotions.
Alors Ludwig dit à Louise lors de l'une de leurs conversations « C'est affreux comme une vie peut se raconter vite ». Est-ce que c'est pour élargir ce temps que vous consacrez de l'espace au silence dans ce livre-là, comme dans tous les autres d'ailleurs ?
Oui, mais ça veut dire aussi que la narration ne suffit pas. Un récit de vie, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Et de même que, vous savez, dans les récits, comme lorsque vous racontez tel écrivain, tel poète, tel musicien, la naissance, la mort. Mais non, la vie n'est pas, ne va pas à la mort. Il y a, la mort interrompt quelque chose, interrompt un possible qui est extraordinairement riche. Nos vies sont bien plus intéressantes que le récit qu'on peut en faire et qu'on pourra en faire. Dieu merci, elles valent mille fois plus. Et puis elles contiennent tellement plus de secrets que ce qu'on en avoue. Donc il faut à tout prix conserver cette pluralité là, un peu fragmentaire des sensations.
Mais c'est ça que permet la littérature ?
C'est la littérature. C'est parfois aussi la poésie. Que le fait de fragmenter, le sensoriel pour le laisser être tel qu'il est, sans première personne, deuxième personne, sans héroïsation de celui qui parle.
Alors la nature est partout dans ce roman. Nous la regardons souvent à travers les yeux de Louise qui la nomme, là encore, les fleurs, les arbres qui l'entourent. Est-ce que, pour vous, la nature est liée autant à l'amour, au silence, à la littérature, à tous ces thèmes qu'on vient d'aborder? J'ai l'impression que finalement c'est la nature qui les englobe, c'est la nature qui fait le lien.
C'est la nature le vrai sujet, oui. De nos vies, hein, c'est vraiment ça qui englobe, mais qui est sujet, qui parle en nous, qui parle en nous. Il y a une chose qui, voyez-vous, à la liste que vous avez donnée, j'ajouterais aussi l'âge. L'âge, parce que il faut en effet être âgé pour pouvoir nommer tous les fruits, nommer toutes les fleurs, nommer tous les odeurs que l'on éprouve. Ah, ça, c'est une myrtille. Ah, ça, non, c'est plutôt une brimbelle. Ah, ça, c'est plutôt une, vous voyez, et ça enrichit le monde. Et ça enrichit la sensation du monde que de pouvoir avoir assez vécu pour pouvoir comparer toutes ces expériences elles-mêmes. Et là, on voit que ce qui donne au fond de nous, plus que l'animalité, c'est toutes les stages, c'est la phylogénèse, pour parler comme les psychanalystes, c'est la nature elle-même qui remonte en nous.
Alors j'ai cru d'abord, en vous lisant, Pascal Quignard, que l'Italie était pour vous, comme pour Louise d'ailleurs peut-être, un paradis perdu. Mais en refermant le livre, je crois désormais que l'Éden, c'est le jardin de Lyon. Alors qu'est-ce que représente pour vous l'Italie dans ce livre-là ?
Ah ! Elle présente quelque chose que... C'est une expérience que j'ai eue, un peu au Japon, un peu à Istanbul aussi, que j'aime beaucoup, c'est une très belle ville. L'Italie, en fait, c'est pas l'Italie. Ce sont les îles volcaniques d'Ischia et de Procida qui ne sont pas... Capri, c'est pas une île, c'est pas volcanique. Elle bouge, elle monte, on sent... C'est pas l'odeur de soufre, que j'aime pas énormément l'odeur de soufre, mais c'est le fait de sentir sous ses pieds la terre... La terre qui vibre et qui bouge, qui s'élève et qui va redescendre un jour au fond de l'océan, de la Thalassa. Et ça, je veux dire, cette sensation-là, elle s'est retrouvée maintenant avec les séismes et avec ce qui se passe, avec ce mouvement océanique qui maintenant qui ronge les côtes, qui commence déjà à submerger, l'Indonésie ou des... Alors, la rivière devient un lieu plus paisible, où les oiseaux, les animaux se rassemblent. Et c'est vrai, en fait. Il n'y a pas que dans la Bible de Frédéric Boyer, mais dans beaucoup, beaucoup de mythologies, il y a le jardin et le premier séjour. Mais c'est un jardin entre les deux. C'est pas une île au milieu de la mer. C'est un jardin. Un jardin avec sa... Les quatre saisons, avec son peuple d'animaux et de paix et la non-violence de la nature.
Elle s'assit sur la banquette de bois. Elle regardait ses mains sur ses genoux, ses bagues si vieilles et si récentes et si lumineuses, son bracelet. Ses doigts si longs, si pâles, avec des tendons bleus. C'était avec elle depuis des années désormais qu'elle s'aimait. Comme elle était devenue seule. Ce qu'elle avait vécu depuis toutes ces années, pouvait-elle même dire qu'elle l'avait avoué à ce chat qui s'en était allé et qui avait vécu auprès d'elle ? Non. Ce qu'elle avait vécu, elle ne l'avait partagé en vérité avec personne, même pas avec elle-même. Son âme s'était verrouillée. Non. Quelque chose dans sa mémoire s'était asséché. Non. Ce n'était pas aussi clos, aussi refermé qu'un verrou. Ce n'était ni un verrou, ni un assèchement. Tout tout s'enfouissait en elle sans remous. Disparaissait sans faire signe, sans donner signe, sans aveu, sans confidence. Vent de vendredi ne va pas à la messe. Qu'est-ce que cela veut dire ? Rien. Il y a parfois des amours bloqués dans le silence, comme des voyageurs peuvent être bloqués par la neige. Ils n'atteignent pas dimanche. Parfois, il faut abandonner la voiture à même la congère. Parfois, il faut rebrousser chemin sur la route en lacets, sur la route de montagne qui se révèle trop raide, trop vertigineuse, trop pénible. Parfois, il faut rechercher la station d'avant. Il faut savoir aller à reculons, où on était heureux.
Comme vous lisez bien.
Merci Auriane Delacroix pour cette lecture.
Merveilleusement lu.
On est au début de votre roman, Trésor caché. C'est Louise, c'est les pensées de Louise qu'on entend. Elle dit cette phrase, retourner, retrouver l'endroit où l'on a été heureux. Et j'ai eu l'impression que pour vous, c'était aussi une définition de la littérature. Retrouver l'endroit où on a été heureux.
Mais oui, mais il est irretrouvable, le premier monde dans le ventre de notre mère, nous ne pouvons pas. Nous aurions beau essayer, nous ne pourrions pas y parvenir.
Mais on cherche, non ?
On cherche quelque chose qui est continu, qui est aussi, comment dire, nourricier, qui est aussi une sensation absolument... On imagine ce monde, cela dit. On a maintenant beaucoup, beaucoup d'images. On peut voir là, cette vie fœtale, et c'est très, très impressionnant. Mais c'est un peu fantomatique, c'est comme un autre monde. Mais ça me fascine énormément. Cette vie antérieure, il y a une vie antérieure. Je ne pense pas qu'il y ait une vie postérieure, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose après la mort. C'est plutôt un trou. Bon, on tombera.
Mais avant, oui.
Avant, oui. Avant, il y a quelque chose qui nous poursuit. Comme la nature dont vous parliez tout à l'heure, qui nous poursuit encore, qui pousse encore en nous.
Est-ce qu'on cherche toujours à revenir sur nos pas quand on est écrivain ?
Vous savez, dans les versions latines, il fallait traduire le mot desiderium, désir, il fallait le traduire. On traduisait toujours par regret. C'est curieux qu'on ait toujours eu besoin de traduire le désir par le regret. Mais il faut bien s'appuyer sur quelque chose qu'on a connu pour pouvoir essayer, comment dire, de récupérer le bonheur qu'on y trouvait.
Retrouver le bonheur, on va se quitter sur ces mots. Pascal Quignard, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces premiers
jours
de l'année.
Merci de cette belle lecture aussi. Merci.
2025, votre livre Trésor caché vient de paraître aujourd'hui aux éditions Albin Michel. Et pour poursuivre notre rêverie italienne, finissons cette rencontre par une chanson napolitaine de Roberto Murolo, Casa Solitaria.
La notte in questa casa, lontana e solitaria, tutti in canzone d'amore, ma voglia ricordare. Insieme a quello pittore, pulisse sfortunato, cantammo dolce dolce, solo per non passare. Bastano poche poche d'indo cammino, n'accorde una chitarra, un bambino.
Cette émission a été préparée par Aïssatou Ndoye, Auriane Delacroix, Boris Pino, Zora Vignier, Zoé Coupé, Lise Ripoche et Louis Cosnard. Elle est réalisée par Anna Holbeck et Laurence Malonda, avec à la prise de son Dalia.